Si quelqu'un a une parole qui lui brûle le cœur, il faut, le dire, hein, parce que on n'est pas grand-chose, hein, et la parole de Dieu n'est pas bridée, et si elle n'est pas dite d'un côté, elle est dite de l'autre. Une personne... Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà, donc j'aimerais que nous lisions dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 1. Je pense que Pascal devait être dans ma chambre lorsque j'ai préparé ma prédication. Mais bon, c'est pas étonnant, n'est-ce pas, qu'il y ait une communion de pensées lorsque le Seigneur est à l'œuvre. On n'est pas surpris de ces choses. Ça fait partie de la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est pas quelque chose d'excentrique ou de merveilleusement spécial. La vie de l'Esprit, c'est lorsque la vérité de Dieu entre dans une vie ou dans une assemblée. Et lorsque ce qui se passe chez l'un correspond à ce qui se passe chez l'autre. Ou c'est à des degrés divers et à des moments différents. Mais les pensées des uns et des autres ne peuvent pas être très différentes. L'Esprit de Dieu est un et un seul. Dieu est un et un seul. Jésus est un et un seul. Les trois unis. Et la pensée que nous pouvons avoir, si nous sommes en Christ, elle est nécessairement très peu différente de la pensée de mon voisin, parce que l'enseignement de l'Esprit est le même pour chacun. Donc 1 Jean 3, verset 1, et je vais lire un peu plus longuement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère. Si le monde vous hait, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Je vais m'arrêter là. C'est un passage extrêmement riche. C'est impossible de faire une prédication complète sur un passage comme cela. On peut écrire des livres sur ce passage. Donc je vais juste m'arrêter aux deux premiers versets, mais je voulais vous lire un peu le contexte de ce verset qui dans l'épître de Jean et lui-même, dans ce contexte qui est de... Jean est très binaire. C'est soit vous êtes pas. Soit c'est blanc, soit c'est noir. C'est jamais compliqué. Et tout ce qu'il y a dans l'épître de Jean, on le retrouve d'une autre manière dans l'évangile de Jean. C'est fort probable que ce soit le même qui a écrit les deux livres. Mais en tout cas, il y a énormément de liens entre les deux. Et c'est ce que je vais essayer de faire un petit peu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Appelé enfant de Dieu. Quelques mots sur une page. Enfant de Dieu. Je trouve que c'est une déclaration absolument extraordinaire. Appelé enfant de Dieu. Est-ce que vous avez ce sentiment d'appartenance? Est-ce que vous le savez que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que ce matin vous êtes rentré ici en vous disant « Je suis enfant de Dieu » ? On vous dirait, oui, non, mais ça, on a pris conscience au début. Maintenant, c'est passé. On vit dedans. Voilà, c'est le train-train quotidien, c'est la routine. Pourtant, c'est une déclaration absolument extraordinaire. Vous êtes appelé enfant de Dieu. Et si vous n'avez jamais eu ce... cette certitude d'être enfant de Dieu. Si ce matin, en entrant, vous ne l'aviez pas, vous pouvez l'avoir en sortant. Dieu veut faire de toi. Et Dieu veut te rappeler que tu es son enfant. On ne sait pas toujours hein, ce que ça signifie que méditer la parole de Dieu, mais juste de penser à ça. Qu'est-ce que ça a impliqué? Avant ça, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Quel amour. Lorsque vous dites au monde... Dieu vous aime. Il vous dit, mais tu te moques de qui? Dieu m'aime. Regarde ma condition. Regarde la condition du monde. En fait, le monde se plaint de Dieu. Le monde ne croit pas en Dieu, et s'il y croit, il dit « Mais Dieu n'est pas là, ou Dieu n'aime pas les hommes, puisqu'il y a tant de souffrances, il y a tant de difficultés. Ma vie est si difficile. » La réalité, c'est que Dieu est amour. Il nous appelle ses enfants et il nous aime. Dans Éphésiens 3, verset 17, on peut le lire. Cette vérité nous est rappelée par l'apôtre Paul. Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu est amour. Il est amour déjà parce qu'il nous a donné son Fils alors que nous étions encore pécheurs. Il est mort pour nous. Il est amour et il souhaite que nous soyons enracinés et fondés dans cet amour, afin que nous comprenions avec tous les saints, pas seulement moi, pas seulement toi, mais que nous comprenions avec tous les saints. Et c'est là où je disais le message de Dieu, lorsque l'Esprit parle, est un message qui est commun. Parce qu'il souhaite que tous les saints comprennent de la même façon quel est l'amour de Dieu, quelle est sa largeur, quelle est sa longueur, quelle est sa profondeur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu nous a appelés ses enfants. Dieu nous aime. Et Dieu souhaite que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Ah, moi ça m'explose la cervelle, je suis désolé. Je vous vois très concentré, mais ça... Alors je sais que ce sont des vérités assez basiques qu'on lit facilement, mais prenons-en conscience maintenant. Toute la plénitude de Dieu dans l'homme. Et c'est l'amour de Dieu en nous qui permet cela. Parce que Christ habite dans nos cœurs. Et c'est par la foi que cela se fait. On est très intéressé par les miracles, par la foi. On est très intéressé par beaucoup de choses que Dieu pourrait nous donner par la foi. Mais est-ce que nous vivons l'amour de Dieu par la foi dans nos cœurs? Parce que on est dans deux choses différentes, deux expériences différentes. Le miracle, c'est une chose, c'est formidable. L'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est l'œuvre de Dieu, jour après jour, dans nos vies. Là où la vie n'est pas intéressante, là où c'est la routine, là où le voisin marche sur mes plates-bandes, là où il fait marcher sa musique alors que je veux dormir, là où mon frère et ma sœur a dit une chose de travers et que je n'arrive pas à le supporter. Alors, l'amour de Dieu est-il dans notre cœur? Dieu s'est investi totalement dans ce qu'il a fait pour nous. Il s'est donné entièrement par Jésus-Christ. Il a accompli une œuvre sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, pour ôter nos péchés, est-il dit. Est-ce que nous vivons au quotidien la réalité de ces choses? Un peu plus loin, il dit, le monde ne nous connaît pas. Certains chrétiens aimeraient bien être connus du monde. Un frère disait dernièrement dans mon église, tout le monde se disait, il faut qu'on fasse de la politique. Il faut qu'on soit connu dans la ville. Il faut s'investir dans ces choses-là. Et dit maintenant, ils y sont, et ils ne viennent plus aux réunions de prière. Il y a un choix à faire, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons être connus par le monde? Ou est-ce que nous voulons être connus de Dieu? La grosse majorité de nos frères et sœurs dans le monde ne sont pas connus. Et s'ils sont connus, ils sont connus parce qu'ils sont en prison, ils sont connus parce qu'ils souffrent et que nous prions pour eux, pour que le Seigneur intervienne. Ils sont connus parce qu'ils sont rabaissés jour après jour, parce qu'on ne leur donne pas de travail à cause de leur statut et de leur foi. Le chrétien n'a pas d'intérêt pour le monde, frères et sœurs. Le chrétien n'a pas d'intérêt dans le monde, et le chrétien n'est pas intéressant pour le monde. Qu'est-ce que le chrétien peut apporter? Il y a une histoire dans Jean qui illustre ça très très bien. C'est l'histoire de cet aveugle de naissance qui, heureusement pour lui, rencontre Jésus. Je vais vous le lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va. » Et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Cet homme était connu. Il était connu de tout le monde. C'était le mendiant du coin, le petit Moïse, qui est assis là depuis le début, depuis qu'il est petit. Il est aveugle. Il est né comme ça. Et tout le monde le sait. Tous les gens qui passent tous les jours dans cette rue le voient. ils lui ont parlé. Il dit alors Moïse, comment ça va aujourd'hui? Pas très bien. Je vois toujours pas. Je te le rappelle. On a des questions bêtes comme ça parfois, n'est-ce pas? Parce que les gens souffrent. Comment ça va aujourd'hui? Et, n'est-ce pas, il était connu. Il faisait partie de l'environnement. Il faisait partie presque des meubles. Il mendiait. Il n'y avait pas de doute. On lui donnait la pièce de temps en temps. Mais voilà qu'il rencontre Jésus. Et voilà que Jésus le guérit. Et voilà que les gens commencent à se poser la question, mais est-ce que c'était vraiment lui? Et celui qui est là devant moi et qui voit maintenant, est-ce que c'est vraiment lui qui était là et qui ne voyait pas pendant toutes ces années? Est-ce que vous vous rendez compte? Alors qu'ils avaient devant leurs yeux, tous les jours, cet homme aveugle, qui pouvait le décrire physiquement, lorsqu'il a vu, lorsqu'il était de nouveau comme eux, normal, on va dire, il y avait des doutes qui se sont installés. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Ce récit montre que l'action de Dieu dans une vie a une portée immédiate. C'est-à-dire que là où vous étiez connu avant, eh bien, on ne veut plus vous connaître après. Et en cela, le chrétien n'intéresse personne, n'est-ce pas? On n'a pas envie de connaître le chrétien. Celui qui suit le Seigneur, celui qui marche avec la parole de Dieu dans sa bouche. Oh, je ne parle pas de provocation, je parle simplement d'une vie entière consacrée au Seigneur. Ce n'est pas intéressant pour qui que ce soit. Et même, on va se dire, mais non, finalement, je ne le connaissais pas si bien que ça. Vous avez connu ça? C'était un ami, mais... Ah ouais, non, mais en fin de compte, on n'était pas tellement liés. On a peut-être fait les 400 coups ensemble, mais bon, voilà. Je le connais pas. N'est-ce pas? Lorsque le Seigneur intervient dans nos vies, il nous transporte. Colossiens 1:3 dit, il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que on est dans un autre monde. Les gens nous voient, mais on est ailleurs. On n'est plus du même monde. Est-ce que vous sentez cette différence? Le monde. Je retourne dans 1 Jean. Le monde ne l'a pas connu. Il ne nous connaît pas nous, mais il n'a pas connu Jésus non plus. Dans 1 Jean, il est dit que la parole est venue chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçue. Et ça, c'est toute l'histoire de Jésus depuis le début. Même dans l'Ancien Testament, ce sont les prophètes qui ont été tués. Ils n'ont pas été reçus. Et Jésus vient auprès de son peuple et il n'est pas reçu. Il n'est pas connu de son peuple. C'est pas que on a oublié de lui demander qui il était. Si on retourne dans Jean, on le voit. Dans Jean 8, Jésus est en grande discussion avec les pharisiens. Au verset 19. Jésus vient de leur dire au verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Et au verset 19, ils lui disent, « Mais où est ton Père ?» Au verset 25, « Qui es-tu ?» Au verset 53, « Qui prétends-tu être ?» Et un peu plus loin dans le chapitre 10, je crois, « Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Le problème avec toutes ces questions, c'est qu'ils n'avaient pas envie de le connaître. En tout cas, surtout pas en ce qui concerne son statut de Messie. Ils auraient été d'accord de dire, je pense, n'importe quoi, il est un prophète, il est un homme exceptionnel, mais de dire qu'il était le Messie, c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à concevoir. Mais quand j'ai lu ces paroles, je me suis dit, mais quand on lit cet échange entre Jésus et les pharisiens, à qui est-ce qu'on pense ? Qui sont les pharisiens ? C'est les autres ? Un jour, on m'avait dit, ah, les pharisiens seraient curés. Alors pendant quelques semaines, ça m'a tranquillisé. Je me suis dit, bon, c'est bien, ça ne me concerne pas. Ça concerne les curés. Est-ce qu'au jour où le Seigneur m'a dit, le pharisien, c'est toi ? Quand tu lis ces paroles, c'est toi qui dois te sentir visé. C'est pas les autres. Est-ce que vous êtes en train de demander à Jésus, qui es-tu ? Ah non, 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 moi je dis pas ça, moi Jésus je le connais bien, il m'a sauvé il y a, je compte plus les années. Mais aujourd'hui, quand vous rencontrez Jésus, s'il venait maintenant, est-ce que vous feriez comme les pharisiens ? Mais qui es-tu ? Qui prétends-tu être ? Alors on sait que Jésus n'a pas répondu directement à la question parce que les pharisiens voulaient le piéger là-dessus. Mais en même temps, il a donné la réponse. Il a dit, ce sont les œuvres que je fais qui parlent de moi et qui disent qui je suis. C'est très développé dans tout Jean et dans l'Épître aussi. Ce sont les œuvres que je fais. Et pendant qu'il leur disait ça, il leur renvoyait une autre question. Et vous, qui est votre Père ? Là, je paraphrase évidemment. Votre Père, c'est le diable parce que vous faites les œuvres de votre Père. Et vous ne pouvez pas faire d'autres œuvres que celles du malin. N'est-ce pas ? Seigneur Jésus, ce matin, dans ma vie, qui es-tu ? Et Jésus te répond, et toi, qui es-tu ? Le Seigneur vous dit, tu connais mes œuvres, tu sais ce que je fais. Quelles sont tes œuvres ? Quelles sont celles que tu fais ? Qui est ton Père ? Vous savez, aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un qui il est, il vous sort sa carte de visite. Et dans certains, aux États-Unis, je crois, ils marquent le poids en dollars. Je pèse autant. Voilà qui je suis. Et ils sont fiers. Lorsque dans la parole de Dieu, la question est posée, c'est « Qui es-tu ? » Et ça sous-entend « Qui est ton Père ?» C'était la question qui a été posée à Rachel lorsque le serviteur d'Abraham cherchait l'épouse. De qui es-tu la fille ? Il lui a pas sorti sa carte de visite en lui disant « Moi, je suis je pèse autant financièrement. Mais vous savez, dans le monde chrétien, c'est moi je pèse autant en conversion. Je pèse autant en implantation d'église. Je pèse autant en... Qui es-tu? Qui est-ce qui témoigne de toi? Et on peut le réduire à nos propres vies. Moi, je suis un bon prédicateur. Moi, je suis un bon chrétien parce que, voilà, je fais ceci, je fais cela. Qui es-tu? Il y a une parole, lorsque le jeune homme qui a quitté la maison, je ne sais plus maintenant comment on dit, du père, l'enfant prodigue, il est dit qu'il rentra en lui-même. Lui, il s'est posé la question, mais qui je suis? Qui je suis? Et je pense que le Seigneur nous appelle à rentrer en nous-mêmes parfois. Et à faire table rase de ce que nous connaissons. De ce que nous pensons savoir. De ce que nous disons être. De nous placer devant lui. Seigneur, qui je suis? Et la parole qui vous vient, elle est invariablement celle-ci. Tu es ce que tu es en fonction de qui est ton Père. Tu fais les œuvres de ton Père. C'est pas possible de faire à moitié les œuvres de l'un et à moitié les œuvres de l'autre. Tu es celui à qui tu appartiens, dont tu es l'esclave aussi. Parfois, on ne veut pas reconnaître Jésus-Christ parce qu'il nous dit des choses dures. Lorsqu'ils lui ont posé la question « Qui es-tu ?» Jésus répondit « Je vous dis dès le commencement. Ce que je vous dis, je suis... » Enfin, je vais vous dire toute la phrase. « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit « Ce que je vous dis dès le commencement. » Et ensuite il continue, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Et c'est là parfois qu'on n'a pas envie de reconnaître Jésus. Parce qu'il va nous mettre face aux réalités. J'ai beaucoup de choses à juger en vous. Dans 1 Jean, il continue. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dieu est pur. L'Esprit de Dieu est pur. Est-ce que nous prenons soin à nous purifier nous-mêmes, comme lui-même est pur? Cela signifie, est-ce que dans ma vie quotidienne, la chose que je chéris le plus, c'est de vouloir rester pur. C'est d'accepter le jugement de Dieu lorsqu'il vient dans ma vie. Frères et sœurs, si vous êtes fils et filles de Dieu, vous entendez la parole de Dieu dans votre cœur qui vous dit si ce que vous faites est bien ou pas. Qui vous dit si vous êtes dans la vérité ou non. Et c'est la parole de Dieu qui vient pour juger ce qu'il y a en vous. Et là, si nous avons cette certitude que nous allons rencontrer Christ, alors il y a une action de notre part. C'est que nous demandons à Dieu de nous pardonner. C'est que nous acceptons le jugement lorsque il nous le montre. Nous ne disons pas « Je pense avoir entendu que Dieu me demande peut-être de régler quelque chose. » Là, vous avez déjà la parole du malin qui vient vous dire « Fais-le plus tard peut-être. » Christ en nous, c'est la possibilité d'une vie pure, où le péché devient exceptionnel. Frères et sœurs, je ne sais pas comment insister, mais je veux le faire parce que vivre la plénitude de Dieu, c'est aussi accepter les jugements de Dieu dans la façon dont nous vivons, la façon dont nous nous comportons et la façon dont nous agissons jour après jour. Ce sont nos actions qui montrent qui nous sommes. C'est pas notre bouche. Le cœur de l'homme est corrompu. Il n'y a que lorsqu'on prend soin jour après jour d'obéir à la parole qui insiste et qui nous dit « Je veux que tu te mettes en règle, parce que je ne peux pas t'accorder ma plénitude. Je veux que tu arrêtes de dire que tu ne me connais pas pour certains aspects de ta vie. Je veux que tu arrêtes de vouloir apparaître comme quelqu'un aux yeux du monde, alors que tu sais très bien que moi je ne suis rien, que le monde ne m'a pas connu. Le Seigneur veut que le monde le connaisse, mais à ses conditions. Le Seigneur veut que vous accordez sa plénitude en vous, mais à ses conditions, pas aux nôtres. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Frères et sœurs, je suis convaincu que le Seigneur est présent et qu'il souhaite plus que tout, nous accorder la plénitude de sa grâce. Il souhaite plus que tout vivre en nous. Il souhaite plus que tout que les œuvres que nous faisons expriment qui est notre Père vraiment. Et c'est ça qui impressionne le monde. Malheureusement, on passe trop rapidement sur ces choses-là. Et je crois qu'il y a, alors que les temps vont être plus difficiles, je crois qu'il y a urgence pour que nos cœurs soient réellement assainis par la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Je sais, il y a le péché qu'on fait occasionnellement par accident, et tout ça ne fait pas que nous sommes du diable, je le sais. Et je ne veux pas vous poser une chape de plomb Et je ne veux pas que vous sortiez en pensant que j'ai dit cela. Mais il y a des routines d'attitude qui sont une honte devant Dieu. Il y a des façons d'agir et d'être qui ne glorifient pas le Seigneur. Que ce soit avec nos collègues de travail, peut-être. Que ce soit dans nos familles. Que ce soit les relations que nous avons entre frères et sœurs, ou les relations familiales. C'est de ça dont il est question, premièrement. Nous faisons des œuvres ici, à l'Église. Quelles œuvres faisons-nous? Et quelles œuvres montrons-nous hors de l'Église? Est-ce que Jésus vous a montré, oui ou non, là où vous deviez agir pour que ça change? S'il vous l'a montré, alors il faut immédiatement changer la situation, immédiatement intervenir dans cette situation-là. Parce que le Seigneur va vous le montrer plusieurs fois. Et peut-être qu'à un moment ou un autre, il vous le montrera moins. Et le péché va prendre le dessus. La parole dit que le Seigneur ne contestera pas sans arrêt avec l'homme parce que celui-ci n'est que chair. L'Esprit de Dieu ne contestera pas parce que l'homme n'est que chair. Et je crois qu'il faut prendre au sérieux les avertissements. Et ce matin, réellement se poser cette question, mais qui je suis en Christ? Est-ce que j'ai obéi à la parole du Seigneur, qui était simple? Le Seigneur ne demande pas des choses compliquées. Il ne nous fait pas crouler sous une quantité de demandes. Si c'est ça, c'est pas le Seigneur. Il vient petit à petit, et il montre les choses à régler. Est-ce qu'il faut demander pardon à quelqu'un? Est-ce qu'il faut arrêter une routine, un péché qui revient de façon régulière? Est-ce qu'il faut arrêter une attitude vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, une façon d'être? Vous savez, ces choses qui restent du monde, ces relents, ces fantômes, est-ce qu'il faut que cela cesse? Est-ce qu'il faut que j'arrête de regarder certaines choses à la télé? Est-ce qu'il faut que j'arrête de regarder la télé? Est-ce que le Seigneur vous a montré? Et si le Seigneur est en vous, il vous l'a montré. Ça n'est pas possible autrement, parce que nous l'entendons, nous le voyons, parce que nous avons sa semence en nous. J'aimerais que nous passions un peu de temps à entrer en nous-mêmes et à dire ces choses dans notre cœur. Si nous savons que nous ne sommes pas vraiment enfants de Dieu, ou si nous avons envie de refaire un pas vers le Seigneur, eh bien nous pouvons le faire aussi. Si vous avez besoin que quelqu'un que vous connaissez bien prie avec vous, allez le voir, ou venez voir les anciens, ou Pascal aussi. Il y a une urgence, frères et sœurs, à ce que notre vie soit assainie, pour que la plénitude de Dieu puisse entrer. Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés tes enfants et tu nous as aimés au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Tu nous as donné ton Fils alors que nous étions encore pécheurs. Seigneur, et aujourd'hui nous faisons des œuvres qui montre qui est notre Père. Et Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse être reconnu par les œuvres qu'il accomplit. Seigneur, je prie que personne ne refuse de recevoir, Seigneur, la grâce et le pardon qui vient avec la confession des péchés et la repentance. Seigneur, que tu puisses convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, merci parce que tu veux ouvrir la porte et laisser entrer toute la lumière. Tu ne veux pas juste que ce soit entrouvert. Seigneur, tu veux pénétrer en plénitude. Ô Dieu, je te prie pour mes frères et sœurs ici, pour moi, Seigneur, afin que nous soyons trouvés capables de nous remettre en question, Seigneur, et que nous obéissions à ta parole, afin que tu puisses vivre, Seigneur, en plénitude, à l'intérieur de nos vies, et que nous puissions demeurer en toi. Seigneur, glorifie ton nom. Amen. Voilà, une petite anecdote. Lorsque, ce week-end, nous avons débarrassé le garage, il y avait des objets qui bloquaient l'ouverture de la porte à l'arrière, et ces choses-là, nous les avons retirées. Oh, la porte était ouverte, on pouvait passer, la lumière passait. Et on s'aperçut que lorsqu'on avait enlevé les choses qui bloquaient derrière, la lumière passait mieux. C'était plus grand. C'était plus vaste. On avait l'impression d'une forme de délivrance, quelque part. Le Seigneur veut accomplir ça. Il veut enlever les choses qui encombrent le passage de la porte, qui empêchent que cette porte s'ouvre grande, afin que toute la plénitude de Dieu puisse y rentrer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.